Le bonheur en musique, Edith Walter.
Bonjour chers amis auditeurs. Aujourd'hui, je vous promets un très grand bonheur. Je reçois un, pour moi vraiment, et pas seulement pour moi, pour toute la presse musicale et autres, un immense pianiste qui a enregistré de nombreux disques, mais entre autres, trois sonates magnifiques de Beethoven, Quasi una fantasia, Le clair de lune et La tempête. Et Dominique Merlet, dites-vous que lorsqu'il présente le concours international de Genève, si célèbre, eh bien, il a le premier prix avec Martha Argerich. Et qui est derrière ? Maurizio Pollini. Bon, voilà, ça vous situe déjà. Je suis très heureuse, Dominique, de vous recevoir. Parce que je vous admire beaucoup, vous le savez, je vous invite dans mon festival et puis je vous admire beaucoup. Et tous vos disques ont droit vraiment à la décoration maximum, j'allais dire, que ce soit dans Diapason ou dans Classica. Ce dernier disque a eu les 5 étoiles de Classica. Est-ce que vous aimez particulièrement Beethoven ? Pourquoi vous jouez si bien Beethoven ?
Ah, j'ai un amour particulier pour Beethoven. Évidemment, Bach et Beethoven. Bach parce que je suis aussi organiste, donc j'ai beaucoup joué Bach. Et Beethoven m'a accompagné toute ma vie, si je peux dire. J'ai remporté, par exemple, ce fameux concours dont vous venez de parler. J'ai joué à la finale le 4e concerto, dont vous voyez déjà... Déjà, c'était avec Beethoven que je faisais la finale. Voilà, donc j'ai ensuite, dans tous les programmes de récital, il y a souvent des sonates. Et j'avais déjà enregistré 2 autres disques consacrés à Beethoven, dans lesquels il y avait, entre autres, les fameuses variations Eroica qui sont tellement, tellement difficiles, mais splendides, absolument magnifiques. Et la dernière sonate, opus 111. Voilà. Et puis le disque suivant contenait la Passionata et des variations qu'on connaît moins, parce que j'essaie toujours d'insérer dans mes disques des éléments un peu originaux, hein, voilà. Donc, je trouve que ça fait partie de notre mission de ne pas se cantonner uniquement dans les œuvres les plus connues, les plus célèbres. Alors, vous me direz que là, dans ce disque, il y a la sonate Claire de Lune, évidemment. Mais bon,
c'est pour notre bonheur. Ça participe vraiment à notre bonheur.
Elle est magnifique. Mais alors, je tiens à préciser pour ceux qui s'intéresseraient à ce disque, j'espère qu'il y en aura beaucoup.
Ils sont très nombreux.
Voilà, qui seront peut-être surpris par le tempo que j'ai adopté pour le célèbre premier mouvement. Qu'on joue.
Dominique, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler de chaque sonate au moment où on va les entendre.
Ah d'accord.
Hein, ça me paraît, parce qu'on sera plus proche de l'œuvre et ça sera plus facile de rentrer dedans. J'ai oublié de dire une chose aussi qui fait partie de mon admiration, il faut que les auditeurs se rendent compte à quel point, qu'est-ce qui vraiment justifie cette admiration que j'ai pour vous. Vous avez pendant 34 ans été titulaire de l'orgue de Notre-Dame des Blancs-Manteaux. Voilà, bon, on venait vous entendre de partout pour entendre ce récital d'orgue, enfin, la façon dont vous interprétiez à l'orgue des œuvres qui sont quand même sur cet instrument si différent quand même qu'un piano. Et puis, Et puis, vous avez été un pédagogue. Vous savez, quand on reçoit dans mon festival Donat Chocarli ou Jean-Marc Luzada ou Philippe Cassard ou François-Frédéric Guy, ils disent tous, ce sont des très grands, je les admire et puis je suis pas la seule. Ils disent tous, ah mais on doit tout à Dominique Merlet, professeur au conservatoire. C'était un professeur qui se passionnait pour ses élèves et qui avait un don de pédagogue, en dehors du fait que c'était un musicien hors classe, un don de pédagogue incroyable. Ça a dû vous apporter quand même beaucoup de joie, ça, vous savez ça.
Oui. Bon, j'ai eu la chance d'avoir de merveilleux élèves, hein, il faut
dire. Remercier la situation.
C'est des musiciens formidables, mais qui réagissaient évidemment au quart de tour et que j'ai vu évoluer avec un immense plaisir. Et donc, on se renvoyait la balle, si je peux dire. Hein. C'était évidemment dans les deux sens. Et j'ai eu beaucoup de joie pendant toutes ces années, parce que je suis resté 18 ans au Conservatoire de Paris.
National supérieur de Paris.
Et ensuite 12 ans au Conservatoire de Genève.
Mais hein. Oui, à Genève aussi. Alors Genève, oui. Je ne sais pas si vous avez eu des élèves aussi célèbres à Genève qu'à Paris, mais ils parlent beaucoup de vous. On ne peut pas les entendre sans...
Oui, alors à Genève, c'était plus international parce que, par exemple, j'ai Finian Collins, qui est un Irlandais qui est magnifique et qui a eu le premier prix du concours de Leeds. Et puis j'en ai eu d'autres, Ricardo Castro, des gens comme ça, qu'on connaît moins peut-être en France, mais qui sont très connus dans le monde entier. Hein, c'est voilà. Donc,
mais ils disent tous aussi que, étant donné les dons fantastiques que vous avez reçus, le musicien que vous êtes, vous êtes un peu oublié, vous avez un peu oublié votre carrière. Heureusement, il est arrivé l'âge de la retraite et là, on s'est arraché, Dominique.
Non, c'est certain que ça m'a nui un petit peu parce que, par exemple, quand on approchait des dates de concours, évidemment, là, je refusais beaucoup de choses parce que il fallait s'occuper des programmes des élèves, il y avait les examens préparatoires, etc. Et ça m'a un petit peu freiné.
Ce qui est exceptionnel, Dominique Merlet, je suis, comme vous savez, dans ce métier depuis longtemps, et en général, les professeurs qui ont la chance d'avoir suffisamment de talent pour être également des virtuoses ménagent d'abord leur carrière. Mais il est temps de vous entendre. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de cette sonate numéro 13 en mi bémol majeur, Quasi una fantasia, opus 27, numéro 1, qui est si belle.
Et oui, elle a une forme très originale, très originale. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle una fantasia, parce que ça pourrait être un peu une improvisation de Beethoven. Elle commence pas du tout comme d'habitude avec un allegro, mais avec un mouvement qui est
lent,
morcelé un petit peu en plusieurs parties.
Et qui revient.
Oui, c'est ça. Et alors un ensuite. Adagio. Il y a un deuxième mouvement qui est en ut mineur, qui est le ton relatif du premier mouvement.
Ça,
c'est en général ce qui joue le rôle de trio. Et puis alors après, il y a un mouvement lent qui est très beau et qui débouche directement, ça on l'entendra pas, mais qui débouche directement sur le final, qui est un final.
Si, alors, on va entendre le deuxième et troisième mouvement.
Endiablé. Voilà, donc oui, mais alors le deuxième et troisième mouvement débouche sur le quatrième.
Oui, mais j'enchaîne aussi, aussi.
Voilà,
ce serait trop dommage.
Mais c'est dommage, oui, parce que
tout d'un coup,
Beethoven se libère et le dernier mouvement est endiablé et très, très.
Mais vous êtes d'accord, il y a tout dans cette sonate, c'est-à-dire que il y a quand même l'aspect tragique de Beethoven. Je trouve qu'il y a vraiment des phrases poignantes. Et puis, oui, il y a quelque chose de victorieux dans ce final.
Oui, oui, absolument. Le final est rayonnant
Vainqueur. On écoute donc cette sonate numéro 13 en mi bémol majeur, Quasi una fantasia, et c'est Dominique Merlet qui l'interprète. Vous écouterez le deuxième, troisième et quatrième mouvement.
Thank you.
C'était la sonate de Beethoven, Quasi una fantasia, que Dominique Merlet interprétait. Vous avez entendu le deuxième, troisième et quatrième mouvement de cette sonate de Beethoven. Je vous rappelle que je suis en compagnie de Dominique Merlet. Dominique Merlet, alors il faut absolument que ces auditeurs, qui sont tous musiciens, forcément, sachent que c'est un disque qui est édité par les palais, par le palais des dégustateurs. Oui, c'est vrai, c'est un monsieur qui aime beaucoup le vin de Bourgogne, il n'a pas tort. Et je sais aussi dire que vous êtes un amoureux du vin.
Oui.
Et donc, il est aussi amoureux, il fait peu de disques, mais tous ses disques, il fait jouer les plus grands et il les enregistre admirablement. J'en bafouille tellement, je trouve.
Oui, c'est-à-dire qu'il a trouvé que on se focalisait un peu trop toujours sur les mêmes. Et il a pris le contre-coup. Il s'est dit, bon, ben, puisque c'est ça, moi, je vais sortir un label et faire jouer et enregistrer.
Des musiciens très, très doués qui ont, alors c'est votre cas, qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes parce qu'ils ont une conscience professionnelle et qu'ils aimaient tellement leur pianiste qui était au conservatoire que le professeur a éclipsé le virtuose. Et ce sont, il a comme ça été pêché des hommes qui avaient un talent extraordinaire, qui étaient parmi les plus grands et qui ne faisaient pas la carrière qu'ils auraient dû faire.
C'est ça, oui, oui.
Donc, on va parler maintenant de la Claire de Lune. Alors, celle-là, vous allez me dire, elle est beaucoup plus célèbre. Mais on peut en parler tellement.
Elle est célèbre, mais je m'insurge contre le tempo habituel du premier mouvement, qui est souvent très lanternant, un peu soporifique, à mon avis. Qui est une erreur musicologique, parce que Beethoven, j'ai le manuscrit, là, naturellement, un facsimilé du manuscrit, hein, j'ai pas le manuscrit de la Claire de Lune, mais il y a un C barré au début du premier mouvement, C barré qui veut dire deux temps, c'est-à-dire alla breve, c'est à la blanche qu'on doit penser la mesure, hein, et non pas à la noire. Or, très souvent, cet mouvement est joué avec des triolets à une mesure à quatre temps, et ça fait quelque chose d'extrêmement lent. Les harmonies se diluent et on perd un peu ce magnifique chant dont le son doit tenir, et pour qu'il tienne, il faut évidemment un tempo assez fluide quand même. Donc, je préviens les auditeurs qu'ils auront peut-être une certaine surprise d'entendre quelque chose qui est un petit peu plus, pas trop, mais un petit peu plus
allant
que ce qu'on a l'habitude d'entendre.
Dominique, j'aime bien la veille de mes auditions me faire ma petite émission, c'est-à-dire que j'écoute les œuvres comme ça qui vont passer, que je vais proposer aux auditeurs, et qui sont évidemment les œuvres que les interprètes qui sont dans le studio ont jouées. Et je me suis dit, mais c'est inouï ce que il y a tout Beethoven dans ces sonates.
Vraiment. Ah oui.
Il y a tout Beethoven. J'étais bouleversée, comme si je les écoutais pour la première fois. C'est fou. On ne finit pas de découvrir la richesse de ses œuvres.
Ah oui, non, mais c'est quelqu'un d'inouï. Enfin, absolument extraordinaire. Enfin, c'est. Oui, oui.
C'est ça, magnifiquement construit dans une liberté totale.
Oui. Ah oui, non, ça c'est... Lui et Bach sont des exemples uniques, enfin,
bien
c'est
sûr,
vraiment...
C'est
oui,
sûr.
Oui.
Alors, je crois que, oui, je suis même sûr, que cette sonate, on a dit que c'était pour son chagrin d'amour avec Giulietta. Vous le pensez?
Oui, moi, ça m'intéresse pas tellement, à vrai dire. Mais enfin, c'est possible.
Enfin, c'est quand même une rupture amoureuse très douloureuse.
C'est possible, oui.
Une rupture amoureuse très douloureuse. Et disons que c'est quand même une des sonates les plus expressives dans la force émotive. Oui.
Mais je pense qu'il était assez secret. Il n'a pas forcément révélé.
Non, mais c'est subconscient. Sa pensée consciente.
Oui.
C'était son inconscient.
Oui, oui.
Vous ne trouvez pas que cette sonate est particulièrement tragique ?
Elle est très émouvante et ensuite il y a les mouvements suivants avec ce. Liszt a dit une fleur entre deux abîmes, le mouvement suivant qui est très délicat et qui va déboucher sur un final alors torrentiel qui est absolument presque effrayant. Enfin, c'est le dernier mouvement de la Claire de Lune, c'est quelque chose de terrible, hein. C'est avec des espèces de coups de canon.
Enfin, c'est
oui.
Moi qui vous emmène. À l'abîme.
Oui, absolument, oui.
Écoutez, j'ai plaisir à lire quelques extraits du dernier, cette revue Classica, dernier numéro de Classica, et qui fait une critique, je ne connaissais pas cette critique musicale, Mélissa Combe, mais je trouve ça très intelligent. Après l'éblouissante gravure consacrée au clavier bien tempéré, vous avez eu évidemment un choc de Classica, vous avez eu aussi, je me souviens d'en diapason partout, le grand pédagogue Dominique Merlet aborde un autre sommet du répertoire pianistique pour clore son parcours discographique. Le choix se porte sur trois sonates, voilà. Et que dit-elle encore ? Elle dit que vous accordez une sérénité intérieure qui conduit les contrastes surprenants de l'opus 27. Elle parle du clair de lune en disant que vous livrez ça d'un seul souffle grâce à son flux ininterrompu. Et il vous compare au grand beethovenien Kempf, Brendel et Peraya. Elle dit que vous faites mieux. Une légèreté à laquelle ses confrères ont préféré le pathos. Rarement, l'adagio dont vous venez de parler avait révélé un tel lyrisme. Où les octaves à la main gauche, transparentes et douces, n'alourdissent jamais l'hymne nocturne de la main droite. S'il presto agitato laisse entendre et elle termine en disant la puissance de son discours palpable dans l'univers théâtral de la tempête révèle avec pudeur et autorité l'âme d'un héros. Vous avez dû être content en lisant cette critique.
Oui.
Ça fait quand même plaisir.
Oui, absolument. Mais c'est vrai que cette troisième sonate dont on va parler, La Tempête, là.
Là, on parle de la Claire de Lune. On va écouter la Claire de Lune.
Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr.
C'est la Claire de Lune. On écoute donc un extrait de cette sonate numéro 14 en ut mineur, Claire de Lune, opus 27, numéro 2. Et nous allons entendre le deuxième et le troisième mouvement. Et c'est bien sûr Dominique Merlet qui est l'interprète de Beethoven.
Radio Notre-Dame. Thank you.
C'était un extrait de la sonate numéro 14 en ut mineur, La Claire de Lune, opus 27, numéro 2 de Beethoven. Et c'était Dominique Merlet qui en était l'interprète. Vous avez entendu le deuxième et troisième mouvement. Et je rappelle que je suis en compagnie de Dominique Merlet. Je vous rappelle que ce disque est sorti chez le Palais des Dégustateurs. Tel que je vous connais, vous savez absolument pas ce qu'il faut faire pour entendre ce disque sur Internet, Dominique. Hein, c'est pas votre spécialité d'aller vous écouter sur Internet.
Non.
Mais vous pouvez évidemment l'acheter par l'intermédiaire de...
Ah non, mais on peut l'acheter sur Internet. Hein. Oui,
et puis, bien sûr, à la FNAC.
À la FNAC.
Bien sûr, chez tous les bons disquaires.
Oui.
Et les
oui,
magasins. Oui. Mais on achète de plus en plus sur Internet. La FNAC le vend, enfin bon...
Oui.
Voilà.
Mais en tout cas, il est tout à fait accessible. Hein. Moi,
sûr,
je connais
partout.
Des gens, oui, et à l'étranger aussi. Je connais des gens qui l'ont acheté, etc. Enfin, oui,
mais
oui.
Autant rester en France pour l'acheter. Voilà, c'est vraiment un sommet ce disque. Hein. Je suis très fier de vous en parler. Donc de ces trois sonates, l'opus 27 numéro 1, l'opus 27 numéro 2, et puis on va parler maintenant de la tempête. Cette tempête, elle est pas tellement connue, elle justifie tout à fait son nom. Hein.
Oui, elle était un petit peu insolite, elle a désarçonné un petit peu les auditeurs. La première fois, c'est-à-dire qu'elle est elle aussi un peu comme une improvisation, comme les deux autres sonates. Et l'un des auditeurs, fidèles auditeurs de Beethoven, lui a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire cette sonate? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Alors Beethoven a répondu par une boutade. Il a dit, lisez La Tempête de Shakespeare.
Ouais. Du coup, ça voilà. A gardé ce...
Et du coup, on l'appelle la tempête. À cause de ça. Mais il s'est pas étendu plus que ça. Vous voyez, il n'aimait pas tellement...
Aucun compositeur. C'est oui. Nous qui avons besoin d'essayer de rentrer dans l'inconscient de ces compositeurs et essayons de savoir d'où ça vient, ce génie. Et voilà. Moi, j'aimerais lire ce que Henri Dutilleux, nos plus grands compositeurs... français, a écrit sur vous. Extrême sûreté de la technique, pureté et style, sens de la forme, beauté du phrasé de la matière sonore, intelligence et curiosité d'esprit. Telles sont, selon moi, quelques-unes des qualités qui font de Dominique Merlet l'un des plus remarquables représentants de notre école. Henri Dutilleux. Ouf, c'est pas mal. J'ai rarement lu.
Oui, ça me touche beaucoup parce que j'avais une grande admiration pour Henri Dutilleux. Et
quand est-ce qu'il a eu l'occasion d'écrire ça?
Eh bien, ça c'était il y a très longtemps. C'était au moment du concours de Genève parce que j'ai été l'un des premiers à jouer sa sonate. Et à la demi-finale du concours de Genève. Au lieu de jouer un cheval de bataille comme on jouait Prélude, chorale et fugue de Franck ou des choses comme ça, ou
très
les
connu.
Études symphoniques de Schumann, ou... j'ai décidé de jouer la sonate d'Henri Dutilleux.
C'était culotté parce que.
Alors en 57, on n'était pas nombreux, vous savez.
Non.
Bon, il y avait Geneviève Joie naturellement qui a été la toute première à la jouer.
Sa femme.
Voilà, et puis quelques autres, Monique de la Bruchollerie, je crois, l'a joué.
Mais quand même, le fait en concours, au lieu de séduire un jury, arriver avec une œuvre qui était à peu près inconnue...
Oui, c'était un peu culotté quand même, mais bon, je tenais tellement à jouer cette œuvre, et que finalement, ça a saisi...
Dutilleux,
tout le monde.
Qui était assez avare de compliments. Je l'ai connu parce que j'ai fait pas mal d'interviews d'Henri Dutilleux. Évidemment, c'est nos plus grands compositeurs du XXe siècle. Et c'était un être extrêmement précis.
Oui, oui.
Qui était très économe de ses sentiments qu'il exprimait. On ne peut pas dire du tout que...
Et très exigeant. Hein.
Très, terriblement
exigeant. Très, très exigeant. Non, ça, il n'aurait pas écrit ça s'il y avait eu quelque chose qui lui avait déplu.
C'est évident.
Non.
Oui, non, il était plutôt avare de compliments. C'est un être sobre.
Non, c'était un musicien extraordinaire, c'est Henri Dutilleux, là, c'est...
Alors, Dominique, vous et moi, on n'est plus très jeunes, on s'est croisés à un moment au Conservatoire National Supérieur de Paris, pour dire qu'on est plutôt... Enfin, c'était pas hier. Et comment vous vivez ces années, alors, où il y a quand même le poids des années, et puis il y a aussi la Covid. Est-ce que vous travaillez votre piano tous les jours?
Non, parce que j'ai quelques problèmes avec mes oreilles.
Mais ça n'empêche pas de jouer du piano.
C'est difficile parce que je ne sais pas trop. Les harmonies sont un peu...
Brouillées?
Un peu brouillées, oui. Alors je ne sais pas trop ce que j'entends. Mais bon,
je sais que vous ne donnez
pas par exemple
concert.
Quand je lis une partition, j'entends ce qui est la partition. Hein. J'ai voulu par exemple reprendre la Passion selon saint Matthieu là qui a été donnée à la télé il y a 15 jours. Là, bon, en lisant la partition, j'entends dans ma tête ce qui se passe. Hein.
Vous êtes toujours dans la musique alors,
oui, quand même, oui. Mais enfin, ça, bon, c'est sous une forme un peu différente, évidemment.
Est-ce que vous avez quand même une vie d'interprète tellement riche, est-ce que vous avez encore la nostalgie de ces années où vous donniez des concerts où chaque disque est... Enfin, là, vous avez ce disque qui est très célébré, mais est-ce que vous avez la nostalgie de cette vie d'interprète?
Ah ben forcément, parce que c'était, vous savez, je n'arrêtais pas, hein, j'étais tout le temps par Mons et par Vaux.
Et ça vous manque
entre les cours? Ah bien, quand même, oui, mais par exemple maintenant, rétrospectivement, si vous voulez, je regrette. C'est mes enfants qui en ont souffert un peu parce
oui.
que
c'était pas possible.
Je m'en suis pas suffisamment occupé entre
Dominique. Vous savez, on a tous une certaine culpabilité par rapport à ses enfants. C'est pas pour des raisons si nobles et belles que vous. On pense tous qu'on n'a pas fait assez.
Et vous savez, parce que entre le conservatoire, les concerts, les voyages. L'orgue des Blancs-Manteaux tous les week-ends. Hein. Quelquefois, je cavalais après le cours du troisième cycle le samedi pour être à l'orgue pour la messe de 6 heures. Enfin, vous voyez, parce qu'il y avait une messe le samedi avant le dimanche. Et le dimanche, je revenais pour faire la messe des 11 heures. Voilà.
C'était votre tempête à vous. Mais écoutez, je propose qu'on vous écoute dans celle de Beethoven. C'est donc la sonate numéro 17 en ré mineur, La Tempête, opus 31, numéro 2. J'ai choisi de faire entendre le premier mouvement. Évidemment, ce Beethoven est interprété par Dominique Merlet.